France Inter.
Journal, Céline Asselot, bonjour.
Bonjour à tous. Il promet d'incarner l'optimisme face à la rancœur de Donald Trump et de faire de son âge un atout, synonyme de sagesse. Joe Biden s'est montré très offensif cette nuit lors du traditionnel discours sur l'état de l'Union qui semble lancer sa campagne présidentielle. On ira à Washington au début de ce journal et puis à Jérusalem pour évoquer l'une des annonces du président américain, la construction d'un port temporaire à Gaza pour acheminer l'aide alimentaire désespérément attendue par les habitants. L'actualité ce vendredi, c'est aussi la position du sceau de la République sur le texte qui fait entrer l'IVG dans la Constitution. Ce sera fait tout à l'heure au cours d'une cérémonie très officielle organisée par Emmanuel Macron. Et ce n'est pas un hasard du calendrier en ce 8 mars, journée internationale du droit des femmes, journée dont vous allez justement parler tout à l'heure avec vos invités à 8h20, Aliette Marion.
Oui, à cette occasion, gros plan sur le podcast Outside Kaboul. Dans le grand entretien en studio, Caroline Gillet, autrice de ce podcast qui raconte le parcours de deux jeunes femmes forcées de quitter leur pays aux mains des talibans, et les deux jeunes femmes en question, Marwa et Raha.
Posez vos questions, ouvrez le dialogue, chers auditeurs, au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter.
On parlera aussi des Français très motivés par la sobriété, enfin surtout quand c'est chez les autres, du festival Lollapalooza annulé à cause des Jeux Olympiques, et puis d'Hamlet transformé en manifeste promis-tout. Ça se passe sur la scène de l'Odéon à Paris et on ira découvrir ça à la fin de ce journal.
France Inter.
Ne pas trébucher, ne pas bafouiller et prouver ainsi qu'on est apte à diriger 4 ans de plus, c'était sans doute le principal objectif de Joe Biden lorsqu'il est monté il y a quelques heures sur l'estrade du Congrès américain pour le traditionnel discours sur l'état de l'Union. La forme avait presque plus d'importance que le fond pour ce président en quête d'une réélection, décidé à répondre aux critiques de son futur adversaire Donald Trump sur son âge, sur sa santé mentale. Et le résultat, Sébastien Paour, vous êtes à Washington, c'est un discours offensif, ardent, dit même la presse américaine ce matin, avec des positions qui se veulent fermes sur les conflits qui secouent la planète.
D'abord l'Ukraine, dès le début du discours, à qui il faut envoyer des armes pour qu'elle puisse gagner contre la Russie. Biden demande au Congrès de voter le paquet d'aide en attente et il s'adresse au maître du Kremlin. Mon message au président Poutine, que je connais depuis longtemps, est simple. Nous ne plierons pas. Biden confirme ensuite la construction d'un port à Gaza pour livrer des vivres et des médicaments, mais pas de troupes au sol, et il avertit le Premier ministre israélien. L'aide humanitaire ne peut pas être secondaire ni une monnaie d'échange. Démocratie, économie, armes, avortement, à chaque sujet, Biden se distingue de Trump, qu'il ne nomme jamais mais désigne comme son prédécesseur. Il ironise sur celui qui n'a que 4 ans de moins que lui. Je sais que je n'en ai pas l'air, mais je suis là depuis longtemps. Et quand on arrive à mon âge, certaines choses deviennent plus claires que jamais. Ma vie m'a appris à embrasser la liberté et la démocratie. D'autres personnes de mon âge voient les choses différemment. Une histoire américaine faite de ressentiment, de vengeance et de châtiment. Ce n'est pas moi. Discours de bilan et perspective d'une heure par un Biden très en forme. Discours de campagne, assurément, à 8 mois de la présidence. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
Et dans ce discours, vous le disiez Sébastien, Joe Biden a donc annoncé la construction d'un port temporaire au large de Gaza pour acheminer de l'eau, de la nourriture, des médicaments à une population qui souffre désormais de famine. Précision depuis Jérusalem de notre correspondant Thibault Lefebvre.
Il y a la terre avec des convois d'aide humanitaire pas assez nombreux et pour certains attaqués ou détournés. Il y a les airs avec des parachutages de nourriture là aussi en trop faible quantité. Et il pourrait désormais y avoir la mer avec donc l'annonce de cette mission d'urgence américaine en coordination avec l'allié israélien pour installer dans les prochaines semaines un port artificiel transportable dans les eaux territoriales de Gaza. Concrètement, l'aide humanitaire partirait en bateau de Larnaca à Chypre. Elle serait déchargée 300 km plus au sud sur les quais de cette structure en kit. Une fois opérationnelle, des centaines de camions par jour pourraient alors ravitailler l'enclave en passant par une jetée flottante. Cette solution technique présente deux avantages. Donner la possibilité à des bateaux de débarquer de grandes quantités de marchandises en eau profonde, ce qui est aujourd'hui impossible à Gaza, et puis permettre aux Américains d'acheminer de l'aide sans pour autant obliger leur armée à intervenir au sol. La principale limite de l'initiative, c'est le temps. La population du nord de Gaza meurt de faim et elle ne peut pas attendre plusieurs semaines pour être nourrie.
Thibault Lefebvre depuis Jérusalem pour France Inter.
Il est 8h05. Où en sont les droits des femmes en France? La question se pose en cette journée du 8 mars.
Et les avis divergent. D'un côté, il y a les associations féministes qui appellent à faire plus pour réduire les les inégalités salariales, pour lutter contre les violences conjugales. 200 manifestations sont organisées en France, à Lille, Bordeaux, Marseille, Paris aussi, à partir de 14h. Et puis de l'autre côté, il y a Emmanuel Macron qui souhaite mettre en avant ce qui a déjà été fait, comme sa promesse tenue de faire entrer l'IVG dans la Constitution française. La réforme vient d'être adoptée en Congrès, il ne reste plus qu'une seule étape très symbolique. Elle aura lieu ce midi au ministère de la Justice, lors d'une cérémonie ouverte au public. Il s'agit de la cérémonie du scellement, et ça répond, Delphine Evenou, à un protocole bien précis.
C'est le garde des Sceaux, comme son nom l'indique, qui donne le dernier tour de vis de la presse à sceller, installée donc dans son bureau.
C'est un objet qui fait partie de l'histoire de France.
Un meuble en acajou surmonté d'un mécanisme métallique datant de 1810. Clémence Gaudin, chargée de collection patrimoniale au ministère de la Justice.
Et donc le sceau va être positionné sur cette place et on va venir y insérer une galette de cire. Il y a une face où il y a au nom de la République française et au dos de cette matrice, il y a le symbole de la Marianne et de la Liberté coiffé d'une couronne.
Gravé dans de la cire verte, couleur de l'espoir, et le sceau n'est pas à poser sur une page en bas du texte de loi.
Le document sera posé devant et en fait ce seront uniquement les là, donc le ruban tricolore finalement qui ferait une sorte de reliure de la loi, qui va être scellé dans la galette.
La presse à sceller n'a pas été utilisée depuis 2008 et la réforme des institutions de Nicolas Sarkozy. 14 scellements depuis 1946 pour le symbole.
Folklore, ce serait un peu trivial de dire cela.
Seule la publication au journal officiel assure la validité de la loi. Après la cérémonie de scellement, un exemplaire de cette loi constitutionnelle du 8 mars 2024 partira aux archives nationales. L'autre, un fac-similé, ira au secrétariat général du gouvernement.
Les précisions de Delphine Evenou, parvenir à davantage d'égalité entre les femmes et les hommes, ça passe donc par la loi, ça passe aussi par la sensibilisation. Et c'était le but de cet atelier mené par les élèves du lycée Simone Veil de Brive-la-Gaillarde en Corrèze. Ils ont travaillé avec leurs enseignants sur des photos artistiques présentant des situations de non-consentement ou d'emprise. Avant un dialogue avec la procureure de Brive venue leur rendre visite au lycée, Jean-Philippe Degnaud était présent pour France Inter.
Pour moi, cette image représente une femme qui possède sur son ventre une serrure.
Une serrure rouillée en guise de nombril et le visage tourmenté de cette femme s'affiche en grand sur l'écran de l'amphithéâtre.
On peut également imaginer que ce consentement est géré par celui qui détient la clé.
Et le dialogue s'instaure avec l'artiste Julie de Varroquier.
Ce que je voulais représenter, c'était que ce personnage, il ait l'air un peu inquiet. En fait, oui, la question de qui contrôle mon corps ? Qui en a la clé, effectivement ? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre ?
Pour moi, c'est pas elle qui a la clé parce que on s'imagine que du coup l'homme pourrait potentiellement la préserver pour lui, qu'elle n'est pas libre de faire ce qu'elle veut en fait.
Ce travail a en tout cas permis d'établir un dialogue entre filles et garçons de l'établissement.
Déjà de 1, il n'y en a pas beaucoup qui en parlent, donc c'est comme une sorte d'énigme.
Pareil, quand il parlait des sous l'emprise, les relations toxiques, on se rend compte qu'en fait quasiment tout le monde a vécu ça. En fait, il y a des choses qu'on fait... Genre, on pensait que c'était normal, mais en fait, c'est pas du tout normal.
Et au terme de plus de 3 heures de dialogue, la procureure de Brive, Émilie Abrantès, est plutôt satisfaite du résultat.
J'étais assez étonnée de la maturité des propos et finalement de l'appréhension des concepts. C'est bon signe, ça démontre que cette génération est parfaitement informée. Et ce que j'ai entendu ce matin est de nature à me rassurer.
Donc bravo, vraiment bravo, je suis très fière de vous.
C'est bien aussi de montrer que les choses avancent. Reportage de Jean-Philippe Degnaud. Et en ce 8 mars, les Irlandais sont appelés à dépoussiérer quelque peu leur vision de la femme. La femme qui apporte son soutien à l'État par sa vie au foyer. Voilà ce qu'on lit dans la constitution irlandaise qui date des années 30. Les électeurs vont donc se prononcer sur un changement de formulation au cours d'un référendum organisé aujourd'hui. Au Portugal, les électeurs sont eux appelés à voter dimanche pour leurs députés au terme d'une campagne qui a été marquée par la montée en puissance de l'extrême droite dans ce pays dirigé depuis 8 ans par les socialistes. Il s'agit du parti Chega, fondé il y a seulement 5 ans. Il avait fait 7% aux dernières législatives. Il pourrait emporter dimanche entre 15 et 20% des voix, devenir la troisième force politique du Portugal. Le discours anti-système de son leader séduit tout particulièrement les jeunes. Julie Pietri, vous êtes à Porto.
Le leader, le fondateur, c'est lui.
Mon nom est André Ventura.
André Ventura, ancien commentateur de foot, qui veut devenir Premier ministre et qui le fait
savoir copieusement sur les réseaux sociaux. En musique, il se met en scène ligoté, portugais, libérez-vous du socialisme. Il danse, se prépare un cocktail en s'adressant à son public aussi. Et sa campagne marche auprès des jeunes, 1 sur 4, et séduit. Thomas, 15 ans, militant chez GA, espère dimanche un score qui révolutionnera la vie des Portugais.
Les jeunes doivent partir du Portugal parce qu'il n'y a pas de carrière digne, de salaire digne. Quand les jeunes arrivent à l'âge adulte, ils sont dépendants de leurs parents jusqu'à 30 ans. L'État nous laisse de côté.
Aujourd'hui, un tiers des moins de 40 ans vit à l'étranger. Le discours, c'est « retenons d'abord les jeunes portugais avant d'ouvrir en grand nos portes aux immigrés ». Chega provoque et c'est ça qui plaît, croit Miguel, 20 ans socialiste.
J'ai été jeune, je suis toujours jeune. Je sais qu'on a toujours tendance à être contre. En ce moment, il n'y a pas de parti plus anti-système, plus rebelle que Chega.
Chega promet aux jeunes des aides pour acheter un logement, financer des études. Mais je ne crois pas ce parti, dit-il, et il me fait trop penser au fascisme. Chega reste dans les derniers sondages annoncés deux fois plus fort que lors des dernières législatives.
Reportage de Julie Pietri, envoyée spéciale au Portugal. Les Français critiquent vis-à-vis de la surconsommation. C'est ce que montre un nouveau baromètre élaboré par l'Agence de la transition écologique, l'ADEME, un outil baptisé sobriété mode de consommation qui sera désormais publié chaque année et qui montre que nous avons, disons, quelques contradictions en la matière. Car si les Français reconnaissent bien l'impact de leurs achats sur l'environnement, Sandy Dauphin, ils ont tendance à considérer que c'est aux autres de faire des efforts.
8 Français sur 10 estiment que les gens consomment trop et 77% pensent que nos modes de consommation sont nuisibles pour l'environnement. Mais ce sondage réalisé auprès de 4000 personnes issues de toutes les couches de la population montre aussi que les Français ne sont pas à l'abri de contradictions. La plupart considèrent qu'eux-mêmes font attention. Le problème vient des autres. Patrick Jolivet, directeur des études socio-économiques à l'ADEME.
82% des Français nous répondent effectivement qu'aujourd'hui, ils jugent que leur mode de vie est déjà sobre. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils attendent des actions, prioritairement non pas d'eux-mêmes, mais des pouvoirs publics et des entreprises.
Autre enseignement de ce sondage, le mot « sobriété » est mieux accepté qu'on ne le pense, selon le président de l'ADEME, Sylvain Wasserman.
41% des Français ont une opinion positive de la sobriété, sujet qui est beaucoup dans le débat public, contre 15% qui en ont une image négative. Et puis il y a une trentaine de pourcents qui n'ont pas encore vraiment forgé leur opinion sur le sujet. Il y a des choses surprenantes. Par exemple, on se rend compte que 90% des Français préfèrent payer plus cher pour des biens durables que pour des biens de mauvaise qualité. Ça inclut les Français qui ont des problématiques de fin de mois.
Dans les produits jugés indispensables pour les Français, machines à laver, voitures, télévisions, smartphones et maisons individuelles, par contre, ils sont moins de 15% à penser qu'il faut absolument faire du shopping plusieurs fois par mois, acheter de nouveaux vêtements à chaque saison et avoir un modèle de téléphone récent. Mais l'enquête ne dit pas si les paroles des personnes sondées se traduisent en actes à la caisse des magasins.
Et puisqu'on parle de moins consommer pour mieux protéger la planète, voilà un effet direct de la pollution du changement climatique. La grande barrière de corail subit un processus de blanchissement massif. C'est l'alerte lancée par les autorités australiennes. C'est la 7e vague de blanchissement en 25 ans. La faute à l'augmentation des températures sous-marines qui entraîne la disparition des algues et qui menace l'ensemble de ce très riche écosystème. L'été 2024 sera davantage sportif que culturel. On savait depuis longtemps que l'organisation des manifestations culturelles pourraient être perturbées par les Jeux Olympiques, qui mobilisent énormément les forces de l'ordre, perturbées et même carrément annulées. C'est le cas du festival Lollapalooza qui accueillait l'été dernier 170 000 spectateurs à l'hippodrome de Longchamp à Paris. Cette fois, c'est impossible à organiser, même en version réduite. Et pour Angelo Gopé, directeur général de Live Nation France, qui organise ce festival et bien d'autres événements, les JO de Paris commencent à coûter très cher.
Cette année, on perd 180 millions d'euros de chiffre d'affaires à cause des Jeux Olympiques. Nous n'avons pas accès au Stade de France, nous n'avons pas accès à la Défense Arena, nous n'avons pas accès à l'Accor Arena entre juillet, août et septembre. Donc déjà, on perd déjà tout ce chiffre-là. On pensait faire une petite édition sympathique. On pensait qu'on aurait des forces de l'ordre pour un petit festival de 7000, un petit événement de 7000. Malheureusement, on ne les aura pas. Après, c'est juste le cœur triste parce que c'est, pour nous, ce sont des personnes qui travaillent, ce sont des prestataires qui travaillent, qui ne vont pas travailler cette année. Les Jeux Olympiques, c'est une fois tous les 100 ans. Oui, c'est tous les 100 ans, j'imagine. Mais là, en attendant, on perd 180 millions d'euros de chiffre d'affaires parce qu'on fait pas de concert. Pourquoi je parle de mon chiffre d'affaires à moi? Je parle pas de tous les prestataires. À la période du mois de juillet, sur les stades, on embauche 7 à 10 000 personnes. On travaille avec une centaine de prestataires. Ils ne travailleront pas cette année.
Et rendez-vous donc en 2025 pour la prochaine édition du festival Lollapalooza. En attendant, il y a du théâtre à découvrir avec Hamlet en version modernisée, féminisée. C'est la comédienne Clotilde M qui joue le personnage de Shakespeare sur la scène du théâtre de l'Odéon à Paris. Mise en scène signée de la brésilienne Christiane Jataï et à la place du royaume du Danemark au XVIe siècle. L'intrigue se déroule dans une France traversée par le mouvement MeToo, Stéphane Capron.
Être ou ne pas être, c'est là la question.
La grande tirade qui a fait le succès d'Hamlet est bien là. Même si le texte a été reconstruit par la metteuse en scène Christiane Jataï, ce sont bien les mots de Shakespeare à 85% avec quelques ajouts empruntés à Virginia Woolf. En entrant dans le costume d'Hamlet et en le féminisant, Clotilde M donne à entendre une autre lecture de la pièce.
Là, c'est une femme, c'est pour ça qu'elle est en capacité de demander pardon à Ophélie pour tout ce qui s'est fait au nom de cette masculinité toxique qu'a pu être Hamlet dans son rapport aux femmes. Parce que dans la pièce, ouais, il fait part d'une grande misogynie à l'égard des femmes. L'idée, c'est quand même de revisiter ce passé-là et ces tragédies-là en essayant de trouver les leviers du changement.
Cette nouvelle version d'Hamlet est réellement ancrée dans l'époque MeToo.
Notre Hamlet est une lutte pour l'égalité, une lutte contre les violences, contre une violence intégrée pourtant, mais qu'elle cherche à ne pas reproduire. On sent le combat d'Hamlet contre la violence patriarcale à ne pas reproduire. C'est la lutte d'Hamlet et la mienne aussi, donc voilà, si ça peut parvenir à toucher et faire réfléchir, tant mieux.
Clotilde M s'impose comme une formidable chef de troupe dans cette version très pop électro d'Hamlet où la musique de Sinéad O'Connor à Étienne de Crécy joue un rôle important.
Et Hamlet, nouvelle version, c'est donc à découvrir à l'Odéon à Paris jusqu'au 14 avril, puis au mois de juin, aux Nuits de Fourvière. Et c'est à Lyon, évidemment.
Et c'était le journal de Céline Aslo. Et à Lyon, comme à Paris, il est 8h16.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules électriques, hybrides et thermiques. Euromaster, toute notre expertise pour les pros au service des particuliers.
Et Céline Dacosta, la pluie revient sur le sud du pays.
Oui, une perturbation pluvieuse qui est en train de rentrer dans les terres en ce moment par les Pyrénées, le Languedoc-Roussillon, avec des averses localement soutenues, attendues dans la matinée, notamment sur les Cévennes. De bonnes chutes de neige au-dessus de 1200 mètres sur les Pyrénées et de fortes rafales de vent. Cette perturbation, elle va progresser, gagner toute la moitié sud d'ici cet après-midi avec de bonnes pluies sur le sud-est. Des rafales de vent pouvant atteindre les 100 km à l'heure sur les Bouches-du-Rhône, de la neige sur le Massif central et les Alpes du Sud. Et puis, elle va remonter vers la Bretagne jusqu'en région parisienne en fin d'après-midi, mais les averses seront plus faibles et en les attendant on aura un ciel encore assez ensoleillé sur la moitié nord, surtout de l'Île-de-France au quart nord-est. Le ciel sera plus nuageux sur le quart nord-ouest.
Et pour les températures ?
C'est encore un petit peu frais ce matin, 0 à 5 degrés sur la moitié nord, quelques petites gelées sur le nord-est, 6 à 12 degrés, ça c'est pour la moitié sud. Et puis dans l'après-midi, les valeurs seront plus douces et iront de 12 à 17 degrés du nord au sud, 5 degrés à Paris ce matin, il en fera 14 cet après-midi.
Merci Céline Dacosta, c'était la météo, 8h17 sur Inter, géopolitique. Mouah.